Vous écoutez le Modèle Standard, un podcast gastronomique de Nicolas Graner et Valentin Villeneuve. Aujourd'hui, des gros trous, des petits trous, encore des trous noirs. Première partie.
Bonjour Valentin.
Ah, salut Nicolas.
Pour notre épisode d'aujourd'hui, je te propose un sujet, les trous noirs.
Les trous noirs, tu trouves des trucs à dire sur les trous noirs, toi ?
Plein de trucs à dire sur les trous noirs.
Les trous noirs, ils sont tout noirs.
Ouais, mais enfin, pour comprendre déjà pourquoi ils sont tout noirs, et puis comment ils se forment, et puis comment on arrive quand même à les observer bien qu'ils soient noirs, et toute la physique qui est derrière. Non, c'est un sujet très très riche.
Mais moi, j'ai pas vraiment de chanson.
Le trou noir en anglais, c'est black hole. Je sais pas si ça t'évoque
black
quelque
hole.
Chose.
Oh, dis donc. En ce moment, tu sais, je m'intéresse aux racines du jazz, aux chansons vraiment très, très, très anciennes. Par exemple, tu sais, il y a cette chanson... Let my people go. People, black hole.
Ouais, ça peut le faire.
Let my black hole go.
Oui, alors laisse partir mon trou noir, ça ira pas parce qu'ils partent pas. Par contre, tu pourrais mettre let my black hole grow.
Laisse grandir mon trou noir.
Voilà, parce que les trous noirs, ils ont tendance à grossir de plus en plus.
Ah, d'accord. Alors, let my black hole grow. Ouais, ça pourrait le faire. Alors, les trous noirs. Donc, les trous noirs, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ?
Alors, savoir ce que c'est qu'un trou noir, déjà, c'est pas du tout évident. Parce que l'explication que tu trouveras un peu partout, hein, si tu cherches, l'explication la plus simple, c'est celle qui date du 18e siècle.
Dès le 18e.
Oui. Dès qu'on a la théorie de la gravitation de Newton, hein, qui date du 17e, c'est-à-dire qui dit que tous les corps s'attirent entre eux, et ils s'attirent d'autant plus qu'ils sont plus massifs, et d'autant moins qu'ils sont plus éloignés.
D'accord.
Ça, c'est la base de la gravitation. Dès qu'on a ça, on peut imaginer ce que pourrait être un trou noir. C'est ce qu'a fait un Anglais qui s'appelait John Mitchell, qui était né en 1723, mais ça n'a pas eu tellement de succès. Et en fait, celui qui a vraiment popularisé l'idée, c'est 25 ans après, c'est un grand physicien français, c'est Pierre-Simon de Laplace.
Laplace.
Laplace,
ouais.
Qui a travaillé pendant la Révolution, la période napoléonienne. Et... on a pensé pendant longtemps qu'il avait retrouvé l'idée indépendamment, mais en fait, on sait maintenant qu'il avait lu les travaux de Mitchell. Et alors, son idée de ce que c'est qu'un trou noir, pour lui, c'est quelque chose, un astre, un objet astronomique, dont la lumière ne peut pas s'échapper.
D'accord.
La notion qui est vraiment cruciale pour comprendre son modèle, c'est la vitesse de libération. Imagine, je suis sur Terre, je tire un boulet de canon vers le ciel, à la verticale. Bon, il monte une certaine hauteur et il retombe.
Ok.
Si je le tire plus fort, plus vite, qu'est-ce qui se passe ?
Il va monter plus haut.
Voilà. Plus je le lance vite au départ, plus il monte haut.
D'accord.
Et si je le lance très vite, en théorie, il pourrait y avoir un moment où il échappe à l'attraction de la Terre et il part à l'infini dans l'espace.
Ah ben, c'est comme, tu sais, le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. C'est
exactement.
Ça. Ils se mettent dans un gros boulet de canon, il y a un énorme canon qui les lance et voilà.
Voilà, c'est exactement ça. Sauf que ça ne marche pas.
Ah bon ?
Parce que, enfin, ça pourrait marcher en théorie, mais en fait... La vitesse qu'il faudrait pour arriver à échapper à l'attraction de la Terre, elle est énorme. Il faudrait partir à 40 000 km/h.
40 000 km/h.
Voilà.
D'accord, ouais, je vois.
Alors, c'est vrai. Bon, déjà, il y a le problème aussi sur Terre qu'il y a une atmosphère, il y a l'air qui nous freine.
Oui.
Mais même s'il n'y avait pas d'air, cette vitesse, elle est absolument énorme. Donc en fait, ce n'est pas comme ça qu'on part, qu'on envoie des choses dans l'espace.
Oui, on envoie des fusées.
Une nouvelle fusée. Donc la fusée, elle pousse continuement. Elle donne pas juste un coup au départ.
Oui.
Elle pousse longtemps. Pendant plusieurs minutes, et puis après elle est à plusieurs étages, donc une fois qu'elle est arrivée à une certaine altitude, il y a un autre moteur qui prend le relais, etc. En poussant petit à petit, on arrive à s'éloigner de la Terre.
Ok.
Bon, mais ça, la vitesse de libération, c'est la vitesse qu'il faut donner à un boulet de canon, donc juste en une fois, pour qu'il parte comme ça dans l'espace.
D'accord.
Donc je t'ai dit, c'est 40 000 km/h, mais ça dépend d'où on est. Si on est beaucoup plus loin de la Terre.
Oui.
Si on est à la hauteur des satellites de communication, par exemple, ça tombe à seulement 15 000 km/h.
D'accord.
Ça reste beaucoup, mais
c'est moins.
C'est moins.
Okay.
Si au contraire, on se rapproche du centre de la Terre. Tu te rappelles ce que je dis, la loi de Newton, plus les masses sont proches, plus elles s'attirent.
Ah oui, donc tu veux dire que si je veux lancer une fusée, il vaut mieux que je la lance en haut d'une montagne qu'au fond d'une tranchée.
Absolument.
D'accord.
Bon, sur la hauteur d'une montagne, c'est pas très sensible. Alors évidemment, si on va sous la Terre, si on creuse un tunnel, ça va plus
mal à sortir.
Tu auras du mal à sortir, et puis tu auras de la masse qui sera au-dessus de toi et de la masse qui sera en dessous, c'est plus compliqué. Mais imagine qu'on comprime la Terre.
Ouais.
En lui gardant la même masse, mais on la rend de plus en plus petite.
D'accord.
Donc à ce moment-là, on est à la surface de la Terre, on sera plus près du centre.
Ah.
Il y aura toujours la même masse, mais plus proche du centre de la Terre, on sera plus attiré.
D'accord.
Donc la vitesse de libération, elle sera plus grande.
D'accord.
Ce sera plus difficile de partir dans l'espace. Mais si je continue à comprimer la Terre, que j'en fais une petite boule qui fait seulement quelques kilomètres, là, la vitesse de libération, elle va être absolument énorme.
D'accord.
Et si je continue à comprimer, alors on ne sait pas faire, mais on imagine, jusqu'à faire une petite bille d'un centimètre,
okay.
À ce moment-là, la vitesse de libération, elle sera tellement grande, elle arrivera à 1 milliard de kilomètres-heure, c'est-à-dire la vitesse de la lumière.
Ah, et c'est là que la lumière peut plus s'échapper.
Exactement.
Si sur ta petite boule, tu mets un petit voyant,
un laser,
tu vas pas voir sa lumière.
La lumière retombera en fait comme un boulet de canon, elle pourra pas s'échapper.
Et donc ça devient un machin noir, peut-être comme un trou.
Voilà. Donc ça c'est un trou noir au sens de Laplace, c'est-à-dire un astre d'où la lumière ne peut pas s'échapper, et donc si on le regarde de l'extérieur, il est noir. Donc,
d'accord.
Si au lieu de faire ça avec la Terre, je le faisais avec le Soleil, par exemple, qui est beaucoup plus gros, il faudrait le ramener, alors pas une petite bille, mais le comprimer à une sphère de 3 km de rayon, et à ce moment-là, c'est pareil, on serait tellement proche du centre par rapport à sa masse que la vitesse de libération serait supérieure à la vitesse de la lumière, et donc on ne verrait plus le Soleil, il ne brillerait plus.
D'accord.
Donc ça, voilà, ça c'est l'explication que tu trouves un peu partout, sauf que ça ne correspond pas à ce qu'on appelle vraiment un trou noir actuellement en physique contemporaine. Mm-hmm. Parce que, ok, ce corps-là, la lumière ou un boulet de canon ne peut pas s'en échapper,
oui.
Mais si je prends une fusée...
Ah bah oui, la fusée, elle continue à pousser.
Voilà, si elle a suffisamment de carburant, son moteur la pousse, et rien ne l'empêche d'en sortir, même si elle ne va pas vite du tout.
D'accord.
Alors que ce qu'on appelle un trou noir vraiment de nos jours, c'est quelque chose dont rien ne peut s'échapper.
Ah bon, même avec ta fusée, même si tu as un super moteur.
Même avec un super moteur, aucune matière, aucune lumière ne peut en sortir. Et ça ne peut pas s'expliquer avec juste la question de la vitesse de libération.
D'accord. Donc là, du coup, ça c'est ce qu'on sait aujourd'hui.
C'est la vraie explication, en fait, elle vient de la théorie de la relativité générale d'Einstein.
Ah ben oui, E égale MC2, l'énergie, la masse, tout ça.
Voilà, alors ça c'est la première théorie d'Einstein, la relativité restreinte. Et après, en 1915, il a étendu pour vraiment comprendre ce que c'est que la gravitation.
Ouais.
Alors, il y a tout un tas d'équations derrière, mais on peut arriver à s'en faire une image. C'est pas du tout comme la gravitation de Newton, où c'est juste une force entre des objets. Pour Einstein, la gravitation, c'est une déformation de l'espace-temps.
L'espace-temps.
De l'espace et du temps.
D'accord.
Bon, on ne peut pas vraiment se représenter ce que ça veut dire, mais si j'essaie de prendre une image, prends une rivière qui est en train de couler.
Ok.
D'accord. Le courant va, mettons, à 5 à l'heure.
D'accord.
Il y a un nageur dedans
ouais.
qui, lui, est capable de nager à 10 à l'heure dans toutes les directions.
D'accord. Donc il peut aller dans le sens de la rivière, et dans ce cas-là, il ira à 15 à l'heure. Ou alors il essaye d'aller en sens inverse et il remontera à 5 à l'heure parce qu'il est obligé de lutter contre le courant.
Il peut aller dans tous les sens. Nous qui sommes sur la rive, on peut le voir descendre ou remonter.
D'accord.
Maintenant, imagine qu'à la place, la rivière, maintenant, elle va à 50 à l'heure.
Il est dans la merde, là.
Il est dans l'eau. Mon nageur, il va toujours à 10 à l'heure. Lui, il ne voit pas la différence par rapport à l'eau qui l'entoure. S'il ne regarde pas la rive, il peut toujours se déplacer dans tous les sens.
Oui.
Mais pour nous qui sommes sur la rive, on voit que... qui nage dans le sens du courant ou dans le sens inverse, de toute façon, il descend et il va vers le bas de la rivière et vers la mer. Il ne pourra jamais remonter vers la source.
Même s'il nage de toutes ses forces, il continuera à descendre.
Voilà, parce que sa vitesse est limitée.
Ok.
Donc maintenant, si tu considères un corps très massif, vu par la théorie d'Einstein, on peut dire en quelque sorte qu'il aspire l'espace tout autour de lui à une certaine vitesse, comme la rivière qui s'écoule.
Donc on pourrait imaginer qu'en fait, tout autour du trou noir, c'est comme si on était dans une rivière qui s'écoule.
Vers le centre du trou noir.
D'accord.
Et donc, s'il le fait venir à une certaine vitesse, mettons comme tout à l'heure, à 50 km/h, à ce moment-là, les objets qui se déplacent dans l'espace à moins que 50 km/h, ils vont forcément être entraînés vers le centre de mon objet.
Oui, mais il te faut une fusée qui va à plus de 50 km/h.
Voilà.
C'est tout simple.
À ce moment-là, pour partir dans l'espace, il faudra une fusée qui aille plus vite que ça. Mais maintenant, imagine que mon corps il soit tellement massif que qu'il attire l'espace vers son centre plus vite que la vitesse de la lumière, plus vite que le milliard de kilomètres heure. À ce moment-là, il faudrait quelque chose qui aille plus vite que la lumière pour arriver à s'échapper dans l'espace.
Mais attends, c'est Einstein qui a dit que c'était pas possible, qu'on pourrait jamais dépasser la vitesse de la lumière.
Exactement. C'est pour ça que dans ce cas d'un corps très 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 massif qui attire l'espace autour de lui, qui le fait couler vers son centre plus vite que la vitesse de la lumière, à ce moment-là, non seulement la lumière ne peut pas s'échapper, mais rien ne peut s'échapper, parce que rien ne va plus vite que la lumière.
D'accord.
Donc là, ce n'est plus une question de vitesse initiale comme avec un boulet de canon. Même si tu nages à contre-courant en permanence avec un gros moteur, eh ben, le courant est trop rapide, tu ne peux pas le remonter.
Ok.
Donc ça, c'est le trou noir vu par la théorie de la relativité, donc le vrai trou noir, dont rien ne peut s'échapper, ni matière, ni lumière.
Ah oui, dis donc, c'est quand même sacrément impressionnant ton histoire, là. Parce que tu es quand même en train de me parler d'un objet extrêmement volumineux, extrêmement lourd, mais qui se réduit, qui se contracte pour avoir une très très haute densité, enfin.
C'est ça, en fait, la masse reste la même, mais c'est la densité qui augmente, exactement.
Voilà. Et donc après, bien qu'il soit objectivement tout petit, il attire tellement les objets autour de lui que plus rien ne s'échappe.
Voilà, bah, t'as très bien compris. Je pense que tu pourrais peut-être essayer de faire un couplet déjà avec ça, non ?
Bah oui, oui. Alors, en partant de Let My People Go, ou Go Down Moses, on l'appelle souvent comme ça aussi, la mélodie, donc ça ferait, par exemple, When contraction won't ever stop.
Quand la contraction ne s'arrête jamais.
Let my black hole grow.
Laisse grossir mon trou noir.
When density's over the top.
Quand la densité dépasse les limites.
Let my black hole grow. Oh, nothing.
Rien ne peut s'échapper.
No proton.
Ni un proton.
No photon.
Ni un photon.
Black holes won't let go.
Les trous noirs ne laissent rien sortir.
Alors donc du coup, là j'ai utilisé vraiment la chanson d'origine. C'est une chanson qui remonte à très 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 loin. Je te parlais des racines du jazz. On est vraiment là au 19e siècle, à une époque où l'esclavage existait encore hein, aux États-Unis. Là, c'est pas le trou noir, là c'est le peuple noir, on pourrait dire.
Oui, je sais pas si c'est de très bon goût.
Oui, c'est surtout complètement déplacé parce qu'à l'origine, c'est pas un peuple, c'est des gens qui viennent de partout en Afrique, de plein d'endroits qui parlent pas la même langue. Et donc, ils sont obligés de petit à petit se construire une culture commune. Et notamment, ça va être une culture musicale.
Et ils entendent les musiques de leurs maîtres blancs ou ils ont apporté leur musique d'Afrique
Alors ben, justement, c'est un confluent de plusieurs influences. Moi, à mon sens, clairement, il y a une influence savante dans cette mélodie quand tu fais par exemple... Ça, c'est un enchaînement qui est tout à fait classique. Je pense que dans une musique plus populaire, on aurait fait... Tu vois ? Avec cette note qui est différente. C'est ce qu'on appelle la note sensible. Ça, c'est typiquement issu de la musique occidentale. Maintenant, c'est sûr que donc ils se fabriquent une culture comme ça vocale.
Ils n'ont pas d'instrument, bien sûr.
Ben voilà.
Alors, ils ont des occasions de chanter quand même, parce qu'ils travaillent beaucoup, ils ne sont pas très heureux.
Justement, déjà, en général, les peuples opprimés, c'est des peuples qui chantent, hein, qui s'expriment comme ils peuvent avec ce qu'ils trouvent. Et il y a aussi des chants de travail. Ça va être, ils travaillent tous ensemble.
Pour donner le rythme quand ils sont en train de piocher ou...
Voilà, de piocher, de cueillir le coton, de construire, après au 19e siècle, de construire les chemins de fer des États-Unis. Et puis, c'est des chants très souvent religieux. Hein, ils chantent ensemble pour prier parce que leur culture commune s'est construite aussi autour de la religion qui leur a été imposée, à savoir le christianisme.
Donc, ils ont repris des thèmes religieux et ils essaient de les adapter à leur propre vie ou...
Des thèmes religieux. Et puis, comme on est dans un pays de culture protestante, ils ont accès aux textes religieux dans une version traduite, hein, pas en latin comme chez les catholiques. Et donc, du coup, ça va être des petits bouts, des évangiles, des cantiques, des chorales, etc., etc. Donc, on a vraiment une culture musicale qui se construit, une culture de chant vocal. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est du chant responsoriel, c'est-à-dire tu as un soliste, et puis après, tu as tout le monde qui répond. Et là, typiquement, quand on fait... Ouais, na, 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 et après, tout le monde... Let my people go. Voilà, très bien.
Tu fais bien la scène.
Tu le fais tout à fait. Voilà. Et c'est sûr que... comme on parle d'un peuple opprimé, ils parlent de Moïse, ils disent Go down Moses.
Ah oui, c'est les Hébreux qui demandent à Moïse de les faire sortir d'Égypte.
Voilà, alors go down, ça veut dire...
descend, pas... de revient du ciel.
Non, c'est pas descend, c'est va en aval du fleuve. En fait, là, on parle d'un fleuve, alors c'est le Nil, hein, en Égypte. Donc, descend voir le pharaon pour lui dire de laisser libérer notre peuple. Mais on peut très bien imaginer que ces esclaves qui chantent une histoire où il est question de descendre un fleuve... le fleuve, pour eux, c'est le Mississippi. Et le Mississippi, quand tu descends le Mississippi, les conditions d'esclavage sont de pire en pire plus tu te rapproches de la côte. Donc l'idée qu'il faut libérer le peuple le long du Mississippi, on peut penser qu'il y avait quelque chose qui leur parlait, tu vois.
Donc c'est un esclave qui a composé cette chanson, alors ?
Ah ben, c'est très difficile à dire parce que ça... évidemment, il n'y a pas d'auteur répertorié. C'est clair que ça a existé pendant des décennies et des décennies avant que les Blancs commencent à le mettre dans des livres, à le relever au XIXe siècle. Mais ce n'est pas seulement des Blancs. En particulier, il y a un mec qui s'appelle Harry Burley.
Burley.
Burley, c'était un compositeur noir, musicien, un excellent chanteur, magnifique chanteur, paraît-il.
Mais c'était un esclave aussi, ou pour qu'on le connaisse par son nom comme ça, il devait quand même avoir un certain statut, non ?
Alors, il descendait d'esclaves affranchis. Là, on parle de la deuxième moitié du 19e siècle, dont l'esclavage était déjà officiellement aboli. Il a essayé d'entrer au conservatoire de New York. Ça a été très, très dur parce que, évidemment, le racisme régnait encore beaucoup, 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 même à New York. Et finalement, il a fini par être admis. Et... Il était imprégné de tout ce répertoire qu'il a transcrit. Alors, il avait vraiment le souci d'écrire ça de façon très, très, très harmonisée, vraiment comme de la musique savante. Et il a publié tout ça à ses propres frais. Et bien qu'il soit élève au conservatoire, et ben, tous les soirs, il était chargé de passer le balai, la serpillière et tout. Il était employé à ça. Jusqu'au jour où le directeur du conservatoire qui passait l'entend fredonner tout en passant la serpillière et dit « Mais c'est absolument extraordinaire ce que vous êtes en train de chanter, venez dans mon bureau. » Et ils sont devenus quasiment copains, quoi. Enfin, ils sont restés en contact très 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 longtemps. Et le directeur du conservatoire s'appelait Antonín Dvořák.
Le Dvorak, le compositeur célèbre
Absolument. Le Dvorak qui avait été plus ou moins élève de Brahms, etc. Il était directeur du conservatoire de New York, qui a écrit la symphonie du Nouveau Monde, d'ailleurs,
oui.
Avec des thèmes que probablement il avait entendu chanter par Burley.
Donc notre fameuse chanson, là, Let My People Go, Burley en avait fait une version...
Absolument. Mais alors, c'est très différent de celle que tu peux connaître, parce que c'est quelqu'un qui voulait manifestement être pris au sérieux, et donc il a écrit un accompagnement de piano tout à fait recherché. Tu vas voir, c'est quand même assez différent de ce qu'on connaît. C'est publié en 1917 et ça a eu un énorme succès.
Ah oui, là on sent quand même qu'il a plus travaillé au conservatoire que dans les champs de coton.
Hein. Ouais, enfin, il a fait ce qu'il a pu.
Donc c'est lui qui a fait passer cette chanson du répertoire populaire au répertoire savant, publié, reconnu.
Bah, c'est un peu ambivalent parce que c'est lui qui a fait connaître cette chanson. Ça a eu un succès extraordinaire et tout le monde la connaissait vraiment aux États-Unis et même en Europe dans les années 1920-1930 grâce à lui, très certainement. Mais en même temps, du coup, c'est lui qui l'a fixé. C'est-à-dire que comme c'était une mélodie qui avait beaucoup évolué, qui avait connu des tas et des tas de versions, à partir du moment où elle a été mise par écrit, eh ben forcément, ça l'affiche d'une certaine façon.
Non, c'est une atmosphère qui est pas mal. Tu vas reprendre la même chose pour ta chanson ?
Bon, clairement, l'écriture du piano, là, c'est une écriture savante. Hein. C'est pas la tradition vocale du néco-spirituel. Mais moi, quand j'entends cette musique, quand même, je pense par exemple, au fleuve Mississippi qui s'écoule, comme la rivière que tu me disais là tout à l'heure.
L'espace qui est avalé par le trou noir,
voilà, exactement.
Ça fait penser au Mississippi qui coule vers la mer.
Bon, le Mississippi, ouais. C'est une très très grosse rivière. Hein. C'est bon. Enfin, cela étant, si tu comprimes toute la terre, là, tu m'avais dit quoi? C'est une bille de 2 cm? Le Mississippi est tout petit là.
Ah oui, là, pour le coup, oui, ce sera...
C'était 2 cm, c'est ça?
Oui, c'est, alors pour le trou noir classique de Laplace, si on voulait comprimer la Terre jusqu'à ce qu'elle devienne un trou noir comme ça, effectivement, ce serait à peu près 2 cm. Mais quand on parle d'un trou noir au sens précis de la relativité, la taille, ça n'a plus vraiment de sens.
Tu veux dire qu'ils sont plus petits ou...
Bah, on ne peut pas vraiment définir une taille au sens propre, puisque toute la matière est concentrée en un point, en fait. C'est ce qu'on appelle techniquement une singularité, c'est-à-dire un endroit où les lois de la physique ne s'appliquent plus vraiment, quoi. C'est un résultat d'équation qui fait que, en un point bien précis de l'espace et du temps, il se passe des choses bizarres, mais on ne peut pas lui donner une taille.
Ouais, donc c'est un objet théorique, mais qui existe.
C'est ça. Bah, d'ailleurs, Einstein pensait qu'ils n'existaient pas, et en fait, on s'est aperçu qu'ils existaient. Alors, ceci dit, on définit quand même une taille, mais qui n'est pas le volume occupé par la matière, comme si on définit la taille de la Terre, c'est le volume de la matière de la Terre. Là, c'est plus le volume duquel on ne peut pas s'échapper.
Hein, je t'ai dit la limite.
Voilà, quand on s'approche trop d'un trou noir, il y a un moment où on ne peut plus s'en éloigner, qu'on soit de la lumière ou quoi que ce soit d'autre. Mais ça, c'est vrai qu'à partir d'une certaine distance.
Donc c'est la limite, c'est la frontière qu'il y a tout autour, comme une sphère invisible, mais qu'il ne faut pas dépasser, quoi, parce que sinon après...
Après, on ne peut plus ressortir. Mais en fait, si on reprend l'analogie de la rivière, imagine que ma rivière, elle se dirige vers une chute d'eau.
Ah oui.
Et donc, elle va de plus en plus vite.
Ah oui, ça accélère.
Voilà, donc au début je suis assez loin, je disais je nageais à 10 à l'heure, bon ma rivière elle va à 5 à l'heure, puis à 8, puis à un moment elle va à 10 à l'heure, donc à ma vitesse maximum, puis elle continue à 15, à 20, etc.
Oui.
D'accord ? Moi qui suis en train de nager dans la rivière, pour moi il ne se passe rien de spécial à ce moment-là.
Ah oui ?
Je nage toujours par rapport à l'eau qui est autour de moi, dans un sens, dans l'autre, vers le haut, vers le bas. Par contre, les gens qui sont à l'extérieur, qui sont sur la rive, ils se rendent compte que quand j'ai dépassé le point où la rivière fait du 10 à l'heure, à partir de là, je ne pourrais plus jamais remonter vers la source.
Ah, d'accord.
D'accord.
Ils savent déjà que tu es condamné.
Voilà, je suis arrivé vers la chute d'eau. Et donc, c'est quelque chose qu'on observe de l'extérieur, c'est une limite virtuelle, un point à partir duquel on ne pourra plus remonter vers la source, dans le cas du trou noir, un point à partir duquel on ne pourra plus remonter, s'éloigner du trou noir, repartir dans l'espace, simplement parce que l'espace qui coule de plus en plus vite vers le centre du trou noir, eh bien, à cet endroit-là, il coule à la vitesse de la lumière.
Mais donc, tant que tu n'as pas atteint cette limite, c'est bon, quoi. Tout va bien.
Alors, on peut le dire. Enfin, tant qu'on est...
Tu peux encore émettre de la lumière, par exemple.
Tout à fait. Si tu émets de la lumière avant de franchir cette limite, ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, tant qu'on est à l'extérieur, la lumière, elle peut partir dans l'espace vers l'infini. En fait, si tu es très loin du trou noir, un trou noir, ça n'a rien de particulier. C'est juste une masse. Imagine que le Soleil, par exemple, soit qu'on le comprime jusqu'à ce qu'il fasse moins de 3 km de rayon et donc qu'il devienne un trou noir.
Ah, tu mets un trou noir à la place du Soleil ?
Voilà.
Ah bah on est dans la merde, attends.
Pas du tout.
Ah.
Non, cette image de qu'on a parfois du trou noir qui avale tout ce qu'il y a autour, c'est totalement faux. À la distance où on est du Soleil, là, la Terre, elle tourne tranquillement autour du Soleil. Si on remplaçait le Soleil par un trou noir qui a la même masse, il ne se passerait rien, la Terre, elle continuerait à tourner à la même vitesse. C'est juste qu'on n'aurait plus la lumière du Soleil, ce serait gênant pour nous.
Oui, mais, on aurait froid.
Voilà, mais la Terre, elle s'en fiche. Elle ne serait pas plus avalée par un trou noir qu'elle n'est avalée par le Soleil actuellement.
Du moment qu'il est suffisamment loin et suffisamment petit.
C'est ça. Par contre, quand on se rapproche de lui, là, ça devient un peu plus problématique. Alors, même bien avant d'avoir atteint l'horizon, simplement, quand on est proche d'une grosse masse, il y a ce qu'on appelle les effets de marée.
Oui.
C'est-à-dire le fait que, par exemple, là, quand tu es debout sur la Terre, tes pieds, ils sont plus près du centre de la Terre que ta tête.
Un tout petit peu.
Ouais. Un tout petit peu. C'est complètement négligeable à cette échelle-là. Mmh. Donc, ça veut dire que la Terre attire un tout petit peu plus tes pieds que ta tête. Maintenant, si au lieu d'être, comme on est là, à 6000 km du centre de la Terre, on était tout près du centre de la Terre, à quelques kilomètres, cette différence-là, elle deviendrait importante. Ton petit 1m70 là, de différence entre ta tête et tes pieds.
Petit toi-même.
Ben, petit par rapport à la taille de la Terre. Il deviendrait plus du tout négligeable. Et donc, tu serais complètement déformé par cette différence d'attraction entre tes pieds et ta tête.
Tu veux dire que je me mettrais à grandir
Ouais, enfin à être étiré et finalement déchiré, quoi, parce que...
Ah oui, on se transforme en spaghetti, quoi.
Voilà, quelque chose comme ça. Et alors, un trou noir, comme il est très très compact, on peut s'en approcher très très près, en fait, par rapport à sa masse. Tu vois, la Terre, transformé en trou noir, elle ne ferait plus qu'un centimètre de diamètre. Donc là, si on s'approchait à un centimètre du centre de la Terre, on serait complètement déchiré, déformé, réduit en bouillie, en particules séparées. Enfin, voilà.
D'accord.
En fait, ce qui est dangereux, c'est de s'approcher trop près d'un trou noir. Mais ce n'est pas le fait qu'on soit près de l'horizon ou pas près de l'horizon. Donc pour un trou noir de taille moyenne, hein, je ne sais pas, hein, qui aurait à peu près la masse du Soleil, son horizon, il est très proche, il est à quelques kilomètres. Donc effectivement, quand on est dans ce coin-là, et même bien avant, on est complètement déformé.
Ouais.
Mais par contre, si tu prends un trou noir qui est énorme, qui fait plusieurs milliards de fois la masse du Soleil,
ouais.
À ce moment-là, son horizon, il est très très loin, il est à des milliards de kilomètres. Et là, tu peux t'en approcher sans aucun problème.
Mais attends, tu veux dire que tu pourrais dépasser l'horizon et même pas t'en rendre compte?
Absolument. Tu arriverais à un endroit où tu ne peux plus t'échapper du trou noir, mais tu t'en rendrais pas compte, il ne se passerait rien de spécial pour toi. Exactement comme le nageur qui franchit, qui passe à l'endroit où la rivière fait du 10 à l'heure, il ne se passe rien de spécial pour lui à ce moment-là, il n'est pas plus mal avant qu'après.
Sauf pour tous ceux qui le voient autour, qui savent que c'est cuit.
Voilà. Et donc, pour un très très gros trou noir super massif, comme on dit, tu peux franchir l'horizon et rentrer à l'intérieur sans qu'il t'arrive rien de particulier. Et c'est longtemps après, quand tu te seras rapproché beaucoup plus du centre, que tu commenceras à être déformé.
Tu te seras rapproché parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Là,
tu n'as pas le choix.
D'accord.
Alors, savoir ce qu'on est devenu une fois qu'on a franchi l'horizon, on n'en sait rien puisqu'on ne peut rien observer. Donc, même les théoriciens de la physique ne savent pas vraiment bien décrire ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, à l'intérieur de l'horizon du trou noir.
On est une pile d'atomes.
Ouais, d'atomes ou d'ondes ou de choses. Enfin, il y a différents modèles, différentes théories, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment moyen de les vérifier.
D'accord. Bon, du coup, ça pourrait donner quelque chose comme ça.
To anyone who's far enough. Pour quelqu'un qui est suffisamment loin.
Let my black hole grow.
Ça a l'air de quelque chose d'ordinaire.
Let my black hole grow, but never.
Mais jamais.
Ever.
Jamais.
Approach its horizon.
Ne vous approchez de son horizon.
If you do.
Si vous le faites.
We'll miss you.
On vous regrettera.
Black holes won't let go.
Les trous noirs ne laissent jamais rien partir. Ah ouais, c'est pas mal. Mais t'as un petit peu changé le rythme par rapport au premier couplet, non?
Eh oui, parce que là, j'ai ajouté du swing.
Du swing?
Alors, c'est sûr que je t'ai dit que la mélodie a été figée, mais ce qui va lui arriver, c'est que des années 20 jusqu'aux années 40, il y a l'avènement du swing.
Ah, donc ça donne un style différent qu'on a remis sur des chansons qui étaient déjà populaires à l'époque.
Parfaitement. Alors, le swing, c'est quoi en fait? C'est un rythme.
Oui.
Hein, c'est par exemple si je joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol.
Là, ça ne swing pas trop.
Non. Nous, on a l'habitude, depuis le 19e siècle, de jouer des notes égales. Hein. Si c'est des croches, par exemple, elles sont parfaitement régulières, elles durent toute la même durée. Le swing, ce sont des notes inégales. C'est-à-dire.
Ça donne déjà plus envie de se balancer.
Exactement. Une note sur deux va être plus courte. Bref. Donc, le swing, c'est une façon de jouer les notes qui peut s'appliquer finalement à d'autres mélodies. Et d'ailleurs, même la musique baroque, la musique au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, on sait que dans certains pays, notamment en France, finalement, il la jouait très probablement avec des notes inégales déjà. Donc finalement, ce n'est pas une invention nouvelle.
C'est-à-dire qu'on les écrivait comme si elles étaient égales, mais en fait, le musicien l'interprétait à sa façon.
C'est ça. Et donc, c'est sûr que quand tu appliques du swing à notre fameuse mélodie de Go Down Moses, au lieu de faire... Tu vas te retrouver à faire... Et tout de suite, il y a un petit déhanchement, il y a des... Voilà.
C'est plus dansant, oui.
Ça rebondit. Donc à partir des années 20 et surtout des années 30 et 40, il y a plein de musiciens comme ça de jazz qui vont reprendre ce thème, qui vont se l'approprier, en faire un standard de jazz, et qui vont lui insuffler... ce rythme, ce swing, ce déhanchement rebondissant comme ça. Ça va être notamment une des grandes spécialités de Armstrong.
Armstrong, celui qui est allé sur la Lune, là, on reste dans l'astronomie.
Ah non, non, c'est pas Neil Armstrong, c'est Louis Armstrong.
Ah, je confonds toujours les deux.
Louis Armstrong, ben, c'est le grand, grand, grand trompettiste et chanteur noir de jazz. Notamment, Armstrong va sortir un album dans les années 50 qui s'intitule carrément « Louis and the Good Book ». Donc Louis est le bon livre.
En toute modestie.
La Bible, voilà. Donc c'est uniquement des adaptations comme ça de gospel, de Negro spiritual. Et donc cet album va avoir un succès énorme. Et en particulier, la chanson Go Down Moses va devenir vraiment emblématique du style de Armstrong.
Et donc c'est cette version-là qu'on connaît maintenant en France, par exemple.
Ah bah, on la connaît énormément. Après, c'est sûr que comme c'est ce qu'on appelle un standard, tous les autres jazzmen et jazzwomen l'ont enregistré, mais ça reste vraiment associé à Louis Armstrong, à tel point qu'il y a un chanteur pour rendre hommage à Armstrong qui a écrit une chanson qui s'appelle comme ça d'ailleurs, Armstrong, sur cette mélodie-là.
Ah mais c'est Claude Nougaro là, Armstrong, je ne suis pas noir.
Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est une mélodie qui date d'il y a au moins un siècle et demi et probablement beaucoup plus, là je peux jouer ça sans crainte du droit d'auteur.
Bon, bah c'est très bien, là ça commence à prendre forme. Alors, sur quoi on part pour le couplet suivant ?
Mais attends, tu me disais qu'il existe donc des trous noirs énormes, des dizaines de milliards de fois la taille du Soleil ?
Ah, des trous noirs, en principe, il peut y en avoir de toutes les tailles, enfin je devrais dire de toutes les masses.
Oui, enfin mais... ça marche ensemble.
Oui, en fait, le rayon de l'horizon, il est proportionnel à la masse. Donc, voilà. On peut dire l'un ou l'autre, ça va dans le même sens. Il y en a des tout à fait minuscules, hein, ça peut faire des fractions de millimètres, ah ça bon peut faire des mètres, des kilomètres, des millions, des milliards de kilomètres. La théorie n'interdit rien de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de savoir comment ils peuvent se former. Est-ce qu'on peut vraiment en fabriquer dans l'univers de toutes ces tailles-là ?
Oui.
Alors, le mécanisme dont on est le plus sûr qui produit vraiment des trous noirs, c'est l'effondrement des étoiles.
Quand elles ont fini de voler, tu veux dire ?
Voilà, exactement. Si je prends une étoile en activité, hein, comme le Soleil,
oui,
il y a la gravité qui a tendance à faire aller toute sa matière vers le centre, mm-hmm, mais au centre, il se produit des réactions nucléaires qui produisent de la chaleur, plein d'énergie, qui ont tendance plutôt à repousser vers l'extérieur.
Oui.
Et donc, actuellement, notre Soleil, il est en équilibre entre les deux, et ça se passe plutôt bien. Mmh. Ça fait des milliards d'années qu'il est comme ça, ça va continuer pendant des milliards d'années. Mais au bout d'un moment, ben, il n'aura plus d'hydrogène à brûler, les réactions nucléaires vont s'arrêter, et à ce moment-là, c'est la gravitation qui va faire que ben, toute la matière va effectivement aller vers le centre.
Alors, il va devenir un trou noir ?
Alors, le Soleil, il va lui arriver des tas de choses, il va exploser, il y a d'autres réactions qui vont se produire. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, ça sera un autre épisode. On n'y sera pas de toute façon. Mais... Non, ce serait intéressant de faire un épisode sur la vie des étoiles. Mais en tout cas, dans certaines configurations, une étoile qui fait plusieurs fois la masse du Soleil, une fois qu'elle a fini toutes ses réactions nucléaires, il y a une partie de la masse de l'étoile qui est éjectée dans le processus, mais la gravité l'emporte. Toute la matière se concentre vers le centre et ça peut tout à fait donner un trou noir.
D'accord.
Donc là, c'est un trou noir qui a quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Typiquement, la masse d'une étoile, hein, il y a des étoiles qui sont bien plus lourdes que le Soleil, ce qu'on appelle des trous noirs stellaires. Donc ceux-là, il y en a beaucoup, des trous noirs comme ça, puisque chaque fois qu'une étoile qui a une masse suffisante termine sa vie, elle peut tout à fait donner un trou noir comme ça, si les conditions s'y prêtent.
D'accord.
Après, il y en a d'autres dont on est sûr qu'ils existent aussi, c'est les trous noirs supermassifs.
Ah oui,
alors ceux-là,
les énormes.
Voilà, ils font des millions de fois la masse du Soleil, ou des milliards, ou jusqu'à peut-être une dizaine de milliards de fois. Et ceux-là, on les rencontre au centre des galaxies.
Ah.
Pratiquement, on pense que peut-être toutes les galaxies ont un trou noir supermassif en leur centre.
Ouais.
En tout cas, notre galaxie, celle dans laquelle on est, la Voie lactée, on est sûr qu'elle en a un.
Ouais.
Et on en a observé dans plein, plein d'autres galaxies. Ceux-là, on n'est pas tout à fait sûr de la façon dont ils se forment. Probablement que c'est des énormes amas de gaz, des nuages de gaz, de matière qui sont de toute façon au centre des galaxies quand les galaxies se forment, qui finissent par tomber vers le centre et comme ça faire une densité énorme et se transformer en trou noir. Et puis, après, ils vont continuer à manger un petit peu tout ce qui passe autour d'eux.
Ouais, et à grossir, à prendre du ventre.
Voilà.
D'accord.
Donc, au début, ils feront peut-être quelques millions de masses solaires. Et puis, quand il y a des étoiles proches du centre de la galaxie qui s'approchent un peu trop près, hop, ils les avalent, ça fait une masse solaire de plus. Et, okay. Et à force de faire comme ça pendant des millions d'années, ils se goinfrent.
OK.
Donc, on n'est pas tout à fait sûr de la façon dont ils se forment, mais en tout cas, on sait qu'ils existent. Après, il peut y avoir d'autres mécanismes de formation. Mmh. Par exemple, si je prends une étoile qui est un peu plus massive que le Soleil, mais pas assez pour devenir un trou noir.
Ouais.
Quand elle est en fin de vie, hein, qu'elle ne fait plus de réaction nucléaire, elle devient un astre très, très, très dense.
Elle s'effondre sur elle-même.
Voilà, ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors, il y a des pulsars, des choses comme ça.
Ouais.
À ce stade-là, elle n'est pas encore assez dense pour devenir un trou noir. Mais elle va continuer à attirer la matière qui est autour d'elle, simplement comme le Soleil attire ce qui est autour de lui. Et s'il y a suffisamment de gaz, de poussière qui passe dans son voisinage, petit à petit, elle va grandir en masse, mais tout en se contractant de plus en plus sur elle-même. Et il se peut qu'au bout d'un moment, elle acquiert une masse suffisante pour devenir un trou noir.
Ah, par exemple, si tu as une autre étoile à neutrons qui arrive et qu'elles se mettent ensemble.
Voilà, alors là, c'est encore le cas où ça irait plus vite. Au lieu de faire petit à petit avec du gaz, elle peut faire d'un seul coup.
Ouais.
S'il y a deux étoiles à neutrons qui ont chacune un peu plus que la moitié de la masse qu'il faut pour un trou noir,
ouais.
Et ben, quand elles vont se réunir,
hop,
ça fait un trou noir d'un coup. Alors ça, par contre, on sait que ça existe parce qu'on l'a observé.
Ah bon ?
On l'a observé, oui, assez récemment, mais d'une façon particulière, parce qu'un événement comme ça, ça produit ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles.
Ah.
Alors ça, c'est encore un effet bizarre de la relativité générale. Disons que c'est des petites déformations de l'espace-temps, et sans rentrer dans le détail, c'est des déformations qui se propagent très très loin.
Ah.
Et donc, même si ça se produit à des milliards d'années-lumière de nous, sur Terre, on peut arriver à le détecter.
Mais attends, ça me rappelle quelque chose. On n'avait pas construit un nouveau truc, là, un détecteur spécialement ?
Oui, c'est ça. Alors, en 2015, on a mis en service des détecteurs. C'est des instruments absolument énormes pour détecter des variations de distance qui sont absolument infimes. Enfin, c'est vraiment des prouesses techniques absolument phénoménales. Et dès qu'on les a mis en service, en 2015, on a commencé à observer, comme ça, par l'effet des ondes gravitationnelles, des événements extrêmement violents. Donc les premiers qu'on a vus, c'était des fusions entre deux trous noirs.
Ah oui, carrément.
Carrément, donc qui donne, ça donne un trou noir, mais, mais un trou noir plus gros.
Oui, d'accord.
Mais en même temps, ça produit des tas de perturbations dans l'espace autour. Et un peu après, en 2017, en août 2017, on a observé un événement qui est là, qui était encore plus intéressant pour les théoriciens, parce que ça validait vraiment une prédiction théorique qu'on n'avait pas pu observer jusque-là. Et c'est deux étoiles à neutrons qui ont fusionné en donnant un trou noir.
Waouh !
Donc ça confirmait vraiment pleinement les prédictions de la relativité générale qui dataient de 100 ans avant. Hein.
D'accord.
Donc ça va encore donner un trou noir de masse stellaire à peu près, hein, puisque on est toujours dans des masses qui sont de l'ordre de grandeur de celles des étoiles ou un petit peu plus grosses.
D'accord.
Après, il y a d'autres tailles qu'on appelle les tailles intermédiaires, donc entre le trou noir qui fait, disons, 10 fois la masse du Soleil et puis celui qui fait un
10
million,
milliards de fois.
Voilà. Est-ce qu'il peut y en avoir qui ferait 10 000 fois, par exemple, la masse du Soleil ?
Ouais.
Ça, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de former ça ?
On a des hypothèses ?
Oui, on pense en avoir observé qui ferait à peu près ces masses-là. Ça pourrait être quand il y a des amas d'étoiles.
Ah.
Parce que les étoiles, souvent, elles naissent pas toutes seules. Elles se forment dans ce qu'on appelle des amas, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'étoiles qui se forment à peu près dans la même zone de la galaxie. Et donc, quand elles arrivent en fin de vie, il se pourrait que, finalement, elles tombent toutes les unes sur les autres et qu'elles finissent par former un trou noir qui ferait donc la masse de quelques milliers d'étoiles. Là, c'est encore très contesté. Il y a des modèles qui prévoient que ça devrait se passer, d'autres qui disent que non. Voilà, là, on est un peu à la limite de la recherche.
Mmh. Donc, on a des trous noirs de la taille d'une étoile, de la taille de quelques milliers d'étoiles et de la taille de plusieurs milliards. Voilà, c'est ça les...
Ce dont on est à peu près sûr. Alors après, si on va dans l'autre sens, il y a les trous noirs qui sont plus petits qu'une étoile, des masses plus faibles. Là, on ne voit pas très bien comment ils pourraient se former. S'il y en a qui se forment, ils pourraient continuer à exister. On ne connaît pas de mécanisme actuellement dans l'univers qui pourrait faire en sorte qu'ils s'en créent. Par contre, ce que les théoriciens ont montré, c'est qu'au moment de la formation de l'univers, juste après le Big Bang, là, les conditions étaient quand même très différentes de ce qu'elles sont maintenant. Et il a pu tout à fait se former des petits trous noirs. Et la question qu'on se pose, évidemment, c'est s'ils s'en est vraiment formé.
Est-ce qu'ils sont encore là?
Est-ce qu'ils sont encore là? Et alors, il y a des théoriciens comme...
T'as entendu parler de Stephen Hawking?
Ah oui, c'était ce grand physicien qui était dans une chaise roulante, là, et qui pouvait plus parler, et qui pouvait... C'était une machine qui parlait à sa place, là.
Voilà, c'est ça, qui était très célèbre, qui a fait beaucoup de travaux sur les trous noirs, qui est mort en mars 2018.
Oui.
Lui, il pensait, sa théorie prévoyait qu'il y aurait énormément de trous noirs comme ça, ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux, hein, puisqu'ils datent de...
Ils sont là depuis le début.
Depuis le début de l'univers. Il y en aurait vraiment en grand nombre, un peu partout. Par contre, ils seraient très, très, très difficiles à observer, à détecter, parce qu'ils sont petits.
D'accord.
Après, tout le monde ne partage pas forcément cet avis, mais en tout cas, c'est une question qui se pose.
OK.
Et alors, il y aurait une dernière façon de faire des trous noirs, ce serait carrément, artificiellement, sur Terre.
Ah ! De les faire nous-mêmes ?
Oui. Dans les accélérateurs de particules. Tu sais, le LHC, par exemple, le gros accélérateur qui est au CERN, où on envoie des protons se rentrer l'un dans l'autre à toute vitesse.
Attends, tu veux dire qu'ils vont nous faire un trou noir en Suisse, là ?
Tu sais, en Suisse, ils font plutôt du trou dans les fromages, mais enfin bon... certains calculs suggèrent que dans un accélérateur de particules, il est possible qu'il se forme des tout petits trous noirs microscopiques, mais qui ne durent pas longtemps. Hein. Rassure-toi, il ne risque pas d'avaler le reste du LHC et la Suisse et la Terre avec.
Okay.
Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des trous noirs vraiment de toutes les tailles.
D'accord. Bon, bah alors, je vais essayer de remettre tout ça dans mon nouveau couplet. It must be that of a star's core. Let my black hole grow.
Sa masse est celle du cœur d'une étoile.
Up to a few billion times more. Let my black hole grow.
Ou jusqu'à quelques milliards de fois plus.
And there's one.
Et il y en a un.
Hidden.
Caché.
In every galaxy.
Dans chaque galaxie.
A monster.
Un monstre.
Dead center,
juste au centre.
Black holes won't let go. Etc.
Les trous noirs ne laissent jamais rien partir.
Voilà. Alors, j'ai essayé un truc là, tu vois, j'ai essayé de changer un peu le caractère. Au lieu d'être dans une mélodie en mineur, j'ai voulu faire une mélodie en majeur.
En mineur, ça veut dire quoi? C'était des travailleurs dans les champs de coton, c'était pas des mineurs, t'es noir.
C'est une question d'harmonie, c'est une question d'intervalle entre les notes. Par exemple, si je prends ce qu'on appelle un accord parfait, par exemple, je vais faire l'accord parfait de Do majeur. Alors, c'est trois notes, hein, par exemple Do, Mi, Sol pour faire Do majeur. Si je regarde en partant de Do pour aller sur Mi, je monte de 4 demi-tons, c'est-à-dire toutes les touches, hein, les touches noires et les touches blanches.
Donc entre deux touches de suite du piano, il y a un demi-ton.
Voilà, un demi-ton, c'est vraiment si je monte seulement d'une touche. Mais là, je vais monter de 4 pour arriver sur Mi. Et après, je vais encore monter de 3, du Mi vers le Sol. Donc voilà, j'ai ces trois notes. J'ai un Do, un Mi, un Sol. Et entre les deux premières, j'ai 4 demi-tons. Et entre les deux du haut, entre Mi et Sol, j'ai 3 demi-tons.
Donc ça, c'est un accord parfait majeur.
Majeur, voilà, exactement. Mais... si au lieu de faire mon Mi, j'avais fait ce qu'on appelle un Mi bémol, la touche noire juste avant le Mi, du coup là j'ai plus que 3 demi-tons entre Do et Mi bémol, ça me fait 3 demi-tons, et du coup bah, si je garde le Sol en haut, là j'en ai 4 au-dessus.
Au lieu de faire 4 demi-tons puis 3, tu fais 3 puis 4.
Exactement, et ça c'est ce qu'on appelle 3 demi-tons puis 4, c'est ce qu'on appelle un accord parfait mineur. Donc c'est toujours un accord de Do, mais lui c'était un accord parfait majeur avec le Mi naturel, et lui... c'est un accord parfait mineur avec le Mi bémol.
Ça fait un peu plus triste, non?
C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu vois, si je fais vraiment la mélodie telle qu'on la chante aujourd'hui, la mélodie de God of Moses, elle est vraiment en mineur. Bon, mais moi, j'ai essayé de la réharmoniser, de la faire passer en majeur, de lui imprimer une transformation. Alors pour ça, il y a deux façons possibles. Il y a ce qu'on appelle par homonymie ou ce qu'on appelle par relative.
Ouh là là, ça allait bien compliqué tout ça. Homonymie, ça veut dire que tu vas garder le même nom de l'accord.
Exactement. C'est-à-dire que, donc tout simplement, bah, par exemple, Nicolas, montre-nous tes talents de pianiste.
Ouh là là.
Est-ce que tu peux me jouer juste « J'ai du bon tabac » le début.
J'ai appris ça quand j'étais petit. Attends, je vais voir si je me rappelle.
Très bien, bravo. Donc là, tu vois, dans ta mélodie, tu as du Do, du Ré, du Mi normal, hein, et du Fa. C'est que des touches blanches. Je vais jouer mon accord de Do majeur en même temps. T'es prêt? On y va ensemble. Voilà, donc tu vois, clairement, ça va bien ensemble. La mélodie de J'ai du bon tabac, on peut dire que c'est une mélodie en Do majeur. Maintenant, est-ce que tu peux me jouer la même mélodie, mais tu vas remplacer ton Mi par un Mi bémol, la touche noire juste à côté?
On va essayer.
Tu vois, tout d'un coup, on se dit que j'ai du bon tabac, mais il n'est pas si bon que ça.
Ah, il y a un côté mélancolique, oui.
C'est sûr. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'homonymie. On est passé d'une mélodie en Do majeur à une mélodie en Do mineur.
Donc, on a gardé le même nom de Do, et on a juste changé un intervalle.
Exactement. Et donc, tu vois, je pourrais très bien faire ça avec ma mélodie. Au lieu de faire... Je peux faire...
Là, tu as fait le contraire, tu es passé de mineur en majeur.
Oui, tout à fait.
C'est plus gai, c'est plus sautillant.
Tout à fait, mais c'est le même principe, tu vois, j'ai corrigé, j'ai remplacé mon petit intervalle de 3 demi-tons, j'ai remplacé par un intervalle de 4 demi-tons, et tout de suite, voilà, c'est plus guiré, voilà. Alors, ça, c'est une façon de faire. Mais il existe aussi ce qu'on appelle passer dans l'accord relatif. Alors, en fait, tout à l'heure, tu te souviens, on avait, par exemple, mon accord de Do majeur. Avec 4 demi-tons en bas, 3 demi-tons par-dessus.
Oui.
Mais si je garde par exemple juste le Do et le Mi, ça fait 4. Hein. Mais je pourrais rajouter une autre note en dessous, à 3 demi-tons en dessous du Do, par exemple en La en l'occurrence. Entre La et Do, j'ai bien 3 demi-tons. Entre Do et Mi, j'ai toujours 4. Mais c'est plus un accord de Do, maintenant c'est un accord de La. Il y a deux notes communes, j'avais Do Mi Sol, maintenant j'ai La Do Mi. C'est ce qu'on appelle l'accord qui est relatif à mon accord. Et c'est un accord qui est mineur maintenant.
Puisque tu as d'abord les 3 demi-tons et ensuite les 4.
Exactement. Et donc du coup, tu vas me rejouer ta mélodie de J'ai du bon tabac, mais cette fois tu peux jouer que sur les touches blanches comme on a fait tout à l'heure, Do, Ré, Mi, Do, Ré. Mais moi, en dessous, au lieu de faire un accord de Do majeur, je vais faire un accord de La mineur. Vas-y. Voilà, tu vois ? Là, on a aussi une mélodie en mineur, mais on n'a pas changé de note de la mélodie cette fois. On a juste changé l'accord qu'il y avait en dessous. Et donc ça, c'est une façon de réharmoniser la mélodie que je trouve assez intéressante. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, ici. Au lieu de commencer avec un accord comme ça, j'ai commencé sur cet accord. Et après, j'ai décalé tous mes accords suivants de la même façon.
Tu as gardé exactement la même mélodie à la main droite et tu as juste changé les accords que tu fais de la main gauche.
Exactement, exactement. Et donc du coup, ça change complètement le caractère de la musique. Hein. Etc, etc.
Retrouvez-nous sur lemodelstandard.fr.